Vous écoutez
RMC.
Tout de suite, bon, Lionel, je pense que t'es à l'abri, mais attention quand même au coup de la panne.
Comment réagir en cas de panne sexuelle?
Allez les gars, 45 minutes de combat, oh. Allez les gars.
Pour comprendre ce que c'est les pannes sexuelles et comment il faut réagir, il faut d'abord comprendre comment ça marche.
Arrêtez, remettez-vous le cerveau à l'envers.
Le terme panne sexuelle est un terme grand public.
J'en ai marre. Oui, il a jamais été bon, nanana.
Il veut parler du fait que le pénis de l'homme n'a pas bien fonctionné lors d'un rapport sexuel. Beaucoup d'hommes pensent que quand il y a des pannes sexuelles, c'est-à-dire des pannes érectiles, c'est un problème du moteur.
Ah ouais, oh, ça va, oh, c'est bon. Attends, ouais.
Ce soir donc, l'OM entame une grosse série. Match à Angers, ce sera en intégralité ce soir sur RMC, comme tous les matchs de Ligue 1 du week-end. Coup d'envoi 21h d'Angers-Marseille. Grosse série car l'OM a 11 matchs à enchaîner jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, en jouant presque tous les 3 jours. C'est donc le moment peut-être de s'interroger sur la profondeur de l'effectif. Par exemple, ce soir, Tudor pourrait avoir envie de faire souffler Alexis Sanchez, ce qui devrait l'obliger à titulariser Luis Suarez. Il y a un petit gap de niveau entre les deux. À gauche, Tavares est suspendu. Ça va peut-être l'obliger à envoyer Klos sur son mauvais côté. Alors, est-ce que l'OM, selon vous, a l'effectif pour tenir cette cadence infernale? 32-16 pour débattre, Jérôme.
Moi, je pense que oui, en termes de nombre. Après, est-ce que le niveau va être suffisant? Je sais pas. Et comme tu l'as dit, Suarez, Luis Suarez est bien inférieur à Alexis Sanchez, hein, pour avoir parlé d'un poste très important. Il va falloir de l'efficacité. Luis Suarez avait été surprenant sur les premiers matchs, du moins c'était le premier match, hein, je crois, où il avait mis un doublé. Derrière, bah, ça s'est calmé, moins de temps de jeu forcément, et le peu de temps de jeu qu'il a eu, bah, il a montré beaucoup de lacunes. Et puis après, les joueurs de côté, c'est pareil, parce qu'il y a un schéma qui est en place. Alors, on pourrait en vouloir aussi à Tudor, en se disant, voilà, mais si tu veux faire tourner ton effectif, tu peux aussi essayer de changer ton dispositif, d'avoir un plan B, ce qu'on lui a reproché, par exemple, en Coupe d'Europe, de pas contre Francfort, de pas intervenir avant, de laisser comme ça ce schéma-là en place, et que bah, derrière tu perds le match, et peut-être que tu le perds aussi parce que tactiquement t'es resté dans ton schéma préférentiel. Donc ça fait partie aussi de la classe des et les compétences d'un grand entraîneur. Et peut-être que lui a des lacunes de ce côté-là aussi pour voir avec son effectif. Mais encore une fois, si on parle d'effectif, aujourd'hui on est au mois de septembre, on arrive au mois d'octobre, demain. C'est encore trop tôt pour dire l'effectif il est pas assez large, l'effectif ceci. On va pas se trouver des excuses quand même, parce que il y a des matchs tous les 3 jours, parce que la cadence est en effet une cadence infernale, mais vaut mieux jouer, et on est passé par là, que ce soit Juni ou Lionel, jouer tous les 3 jours et faire que de la récup sur les entraînements, plutôt que de passer une semaine ou 15 jours comme certains Marseillais ont passé avec la trêve internationale, où ils savent pas comment ils vont être mangés à la reprise. Donc voilà, moi je préférais enchaîner, et je pense que tous les joueurs, surtout en début d'année, franchement, ils préfèrent jouer tous les 3 jours, Jean-Louis. On va même pas se poser la question. Après, s'ils sont pas bons ce soir à Angers, parce qu'il y a des joueurs qui vont reprendre un peu plus de temps de jeu. On parle de Gerson Payet, qui ont au moins été utilisés depuis le début de saison. Ils vont certainement jouer ce soir. Suarez devant, le petit Caboret aussi sur le côté droit. Ces mecs-là ont moins joué. Mais c'est à eux d'être au niveau. C'est à eux de permettre à Marseille de rester tout là-haut, parce que pour l'instant le parcours, c'est un parcours sans faute quasiment.
Après, Jérôme, on peut quand même aussi admettre que l'année dernière, c'était avec Sampaoli, il y avait vraiment une cadence infernale, que ce soit au niveau des entraînements, au niveau des matchs, au niveau pour les Marseillais, ceux qui s'entraînent, qui continuent maintenant derrière avec Tudor, c'est pareil. Apparemment, ils enchaînent avec des doses d'entraînement qui
donc ils vont être fatigués, Lionel.
Mais peut-être qu'il y en a qui étaient en l'année dernière, qui étaient un peu au-dessus,
et qu'on surperformait,
et qu'ils le payent cette année. Et donc l'effectif pour ça, c'est pour ça. Et je suis d'accord avec toi là. Par contre, je te rejoins. C'est pour ça que quand tu sais que quand tu fais un effectif, pour moi, il faut prendre aussi. Tu regardes dans l'effectif. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que ton effectif a subi l'année dernière, mentalement, physiquement? Est-ce qu'il est capable de répéter les mêmes choses là à une cadence infernale avec cette Coupe d'Europe, sachant que l'année dernière dans les Coupes d'Europe, c'était très très difficile mentalement. Donc il faut surperformer mentalement maintenant. Je suis d'accord avec toi. Prévoir un plan B. Si t'as pas pu avoir augmenté en nombre en ton effectif, eh ben prévois que tu resteras pas dans ce dispositif-là, et que tu peux intervertir et tu peux faire
Lionel,
jouer ton. Je dis n'importe n'importe quoi. Changer ton effectif en 4-4-2.
Mais en termes de nombre, on est d'accord que c'est suffisant, du moins. J'imagine quand même, je ne sais pas ce que t'en penses, Juni, mais j'imagine que Longoria et l'entraîneur, quand ils forment un groupe aujourd'hui, ils sont satisfaits du nombre. Après,
Juni. Pardon. Oui, je pense que vous avez tout résumé. Moi, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Je pense que l'effectif, ils ont quand même un bon effectif, à mon avis. Le problème de Marseille, c'est qu'ils ont sur l'épaule un poids à niveau de la Champions League. Donc, quand tu perds sur les, je pense, 14 derniers matchs, je sais pas, ils ont perdu la plupart des matchs, et les 12 premiers cette année, tu perds déjà. Donc, c'est une compétition que tu pourras jamais lâcher, cette compétition.
Ah oui, c'est sûr.
Tu dépenses énormément d'énergie. Les 12 prochains matchs contre les meilleures équipes, peut-être aujourd'hui, du groupe. Et en même temps, t'as encore beaucoup de matchs en Ligue 1 pour terminer avant la Coupe du Monde entre les trois. Donc ça, c'est aussi compliqué.
Juni, regarde, tu me parles d'adrénaline, de tout ce que ça comporte avant un match de Ligue des Champions et le stress que ça procure, psychologique. Mais t'es d'accord avec moi que on va quand même pas parler de fatigue physique au mois d'octobre quand même.
Oui, je suis d'accord. Non, complètement d'accord avec toi.
La fatigue mentale est très compliquée à gérer. Hein. C'est très difficile de récupérer de la fatigue mentale.
C'est cette poids-là que je voulais expliquer. C'est cette poids-là, je pense, parce que tu vas jouer un match de Champions League. T'es obligé à être performant. Mais tu sais que 3-4 jours après, t'as un match de Ligue 1, que c'est aussi important. Mais que tu viens depuis des années, que tu arrives pas à être le vrai Marseille sur une compétition européenne. Là, je pense que les joueurs, ils doutent beaucoup. Là, ça s'y joue un peu. Ça dépend aussi d'entraîneur, comment il va gérer ça, le discours avant le match, le discours pendant la semaine. Cette semaine, ça a été spécial parce qu'il y a eu beaucoup de matchs internationaux. Mais en général, l'effectif, il est prêt. Mais aussi, je ne suis pas trop satisfait avec le modèle du jeu encore. Je pense que l'année dernière, on a vu encore plus de choses, plus d'animation. Cette année, les trois défenseurs continuent à jouer très, très bas. Tu vois Paris jouer quand ils jouent à trois. Sergio Ramos, Marquinhos, que ce soit Kimpembe ou l'autre. Quand Paris, par exemple, est sur le côté droit, Sergio Ramos, il devient en arrière droit. Il est là-haut. Les défenseurs, ils doivent jouer au ballon quand tu joues à trois. Et à Marseille, je vois encore les défenseurs très loin. Donc, tu dépends de tes deux milieux. Tes deux milieux sont des joueurs travailleurs qui c'est Verdoux avec Rongier. Donc, ça, des fois, ça manque un peu de créativité. Et surtout, on voit que l'entraîneur, il va jamais faire jouer les meilleurs ensemble techniquement, comme j'avais dit la semaine dernière. Par exemple, il a joué avec Payet et Gerson, mais il a mis Guendouzi sur le banc. Il a joué avec Guendouzi, mais il a mis Payet sur le banc. Donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre, mais l'entraîneur, c'est peut-être qu'il est basé sur le physique, sur la défense, pas beaucoup de créativité. Donc c'est là que je pense
que c'est vrai qu'en plus, tu as raison, Juni, parce que ça se voit. Dans la critique, par exemple, du match de Tottenham, où beaucoup disent que c'est un super match contre Tottenham en Ligue des Champions, oui, défensivement, il n'y a pas de problème, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont éteint Tottenham, on en revient toujours à la même chose. Mais comme tu le dis, dans l'utilisation du ballon, c'est bien insuffisant ce qu'a proposé Tudor. Et ça se répète. Tottenham, c'est un match de très haut niveau. On est d'accord que tous les matchs ne sont pas comme ça. Mais même en Ligue 1, et même sur des matchs un peu plus faciles en Ligue des Champions, plus facile au Francfort, par exemple, tu sens qu'il y a des manques.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le meilleur joueur de Marseille, à mon avis, c'est l'ailier gauche, c'est Nuno Tavares, c'est lui qui apporte beaucoup. Donc, mais ton milieu, il a besoin d'apporter. Mais est-ce qu'avec deux milieux travailleurs, tu vas réussir vraiment à apporter quelque chose devant? Ce sont des joueurs qui vont entrer dans la surface diverse ou pas. Après, quand on joue Gerson Payet, il joue plutôt dans l'axe. Donc, c'est pas un modèle du jeu que ça me plaît. Mais bien sûr, je respecte chaque entraîneur, il a son droit de choisir. Mais quand tu joues à trois, si les défenseurs, ils comprennent pas, ça manque toujours au milieu.
Ouais, c'est clair.
Mais alors moi, il y a un truc que j'ai du mal à vous suivre, parce que vous me dites, vous l'avez dit tout à l'heure, Jérôme et Lionel, qu'il faut un plan B, que ça serait peut-être pas mal que Tudor ait aussi
De toute façon, c'est l'avenir du football.
Ce qu'on reprochait l'année dernière à Sampaoli, en disant ils changent tout le temps, les joueurs jouent plus à leur place, ils ont pas leur repère.
Oui, mais attention.
Non, mais attends, il y a une différence entre jouer un couloir droit et puis ailier gauche. L'année dernière, c'est ce qu'on voyait. Que t'aies un plan B pour avoir un joueur de couloir, par exemple, qui devient un quatrième défenseur, parce que on va parler de l'équipe de France pour pas parler spécifiquement de Marseille. Quand tu mets un plan B avec Pavard, tu sais qu'il va jouer beaucoup plus défensif que quand t'as un plan B
avec
Coman. Tu vas jouer avec Coman. c'est complètement différent. Ton plan B, il est différent. Tout reste à savoir. C'est ce que disait Johnny. Il faut que les gens aussi arrêtent de penser que parce que tu joues dans un 3-5-2, tu joues spécialement défensif. Ton plan B, ça peut être en mettant d'autres joueurs de capacité avec des alors, performances individuelles.
Parlons de l'OM, parce qu'on est sur l'OM lyonnais. Oui, donc là, Nuno Tavares pas là. Toi, t'aurais plutôt que de mettre Clause dans le même poste, t'aurais mis un attaquant.
Non, mais
c'est ça le plan B dont tu parles. J'ai bien suivi.
Parce qu'on n'a pas vu, Marseille, par exemple. Pourquoi pas jouer à 4? T'as 12 ailiers qui montent beaucoup, qui sont agressifs, que c'est Clause, Nuno Tavares sont des mecs physiquement, ils tiennent tous les matchs au même rythme. Donc pourquoi pas ajouter un joueur au milieu, jouer à 4, au moins essayer. Donc ça va être peut-être plus facile pour Sanchez, ça va être peut-être plus facile pour Gerson. Mais bon, c'est vrai que la plupart des entraîneurs que j'ai connus, comme joueur, comme directeur sportif, quand ils voient 3 défenseurs, ils s'y sont plus confortés.
Oui,
donc
exactement.
Ça, c'est le problème.
Donc, c'est un entraîneur trop défensif.
Mais en fait,
c'est ça ce qui ressort de votre discussion.
En fait, il a des.
Ça peut dépendre aussi de qui tu rencontres.
Non, mais c'est toujours pareil.
Et à quelle période où tu rencontres.
Ah, mais non, Tudor, il met la même équipe tout le temps. Donc,
Jean-Louis, c'est pas. Quand tu me parles de Tudor, moi, rappelle-toi ce que je disais au début. Déjà, je trouve que l'entame de saison, la préparation, dans son management, il s'est raté. Peu importe. Après,
il s'est un peu adouci d'ailleurs depuis cette période.
Heureusement, parce que là, c'était dramatique ce qui se passait.
C'est en train d'exploser à la tête.
Donc, il s'est adouci. N'empêche que Tudor, et je lui souhaite de faire une grande carrière d'entraîneur, mais on peut émettre des doutes. Et dans ce que dit Juni, par exemple, c'est exactement ce qu'on voit sur les matchs. Qui fasse un parcours sans faute en Ligue 1, bravo. Bravo, parce que c'est pas facile quand t'as un effectif qui change quasiment du tout une page blanche sur l'année dernière alors que t'as fini deuxième. Mais n'empêche que après, une fois que t'as compris ça, c'est les équipes en Ligue 1. Et c'est pour ça qu'on défend souvent la Ligue 1, c'est que c'est pas toujours facile. C'est pas un championnat facile où les grandes équipes se baladent en général, c'est toujours des matchs accrochés. Là, les mecs qui vont jouer contre l'OM aujourd'hui, l'OM ils font partie des favoris du championnat parce qu'ils ont un parcours sans faute, s'ils gagnent ce soir, ils sont premiers championnat. Ils vont être attendus différemment, il y a une excitation particulière, il y a une lecture de l'équipe maintenant de l'OM par rapport aux entraîneurs, t'en fais pas qu'ils savent exactement quels sont les points forts, les points faibles. Et aujourd'hui, il y a un truc qui sort du lot et ce qu'on a ressenti sur les matchs de Ligue des Champions, c'est que l'OM a du mal à changer sa philosophie de jeu. Offensivement, tu dois avoir des circuits préférentiels, tu ne le vois pas quand tu joues à 3. Et là, je suis d'accord avec toi, Juni, ou avec Lionel. Nuno Tavares, c'est très bien depuis le début de saison, on va pas le. Mais Klose. Franchement, moi, je reste sur ma faim.
Ouais.
Dans ce système-là, Klose, il peut animer le côté droit parfaitement. Il a une qualité de centre qui est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne.
C'est le période de changement aussi, Jérôme. Tu vois, c'est pas pareil. Tu arrives à Marseille, c'est le période d'adaptation. Il va être bien, il va être moins bon. Ce qui me gêne, c'est comme je dis, si on regarde les exemples mondiaux, Liverpool, Madrid, City, qui me plaît. Toutes ces équipes, qu'est-ce qu'ils ont? Un milieu très fort. Ah, tu vas jamais voir une équipe championne avec sans avoir un milieu très fort. C'est le Barcelone de l'époque de Iniesta avec Xavi.
Exact.
Donc, d'où jouer au milieu de terrain? Qu'ils n'ont pas forcément la créativité. Ok, ça se travaille beaucoup, ça se récupère, ça se cavale, tu cours 15 kilomètres. Mais ça manque. Le moment de gagner certains matchs. Donc, c'est là que je comprends pas certains choix. Mais c'est l'entraîneur, peut-être, qui pense que ça va avancer un peu plus avec le temps et ça va être meilleur, j'espère, pour Marseille surtout.
Exactement.
On va continuer le débat dans une seconde en donnant la parole aux supporters de l'OM qui sont nombreux à nous appeler au 32-16 pour participer au débat. L'OM a-t-il l'effectif pour tenir une cadence infernale? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h-18 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Bien sûr, on continue nos débats sur l'OM qui reprend la voie du championnat ce soir à Angers. Match à 20h45 en direct sur RMC. Bien sûr, comme tous les matchs de football, on est la radio du sport. On est là avec Lionel Charbonnier, avec Juninho, avec Jean-Louis Tour. Bien sûr, Jean-Louis, dans 10 minutes maintenant, il y a quelqu'un qui veut accuser certains footballeurs de s'égarer en prenant des positions politiques.
Exactement. Est-ce qu'un footballeur doit avoir une conviction politique et la partager publiquement
ou c'est interdit, mais...
ou est-ce qu'il y a que des coups à prendre en faisant ça? Ce sera le débat d'en fait d'entrée l'accusé à 18h30. Je vous rappelle au passage qu'on a encore des places de match pour Nice 3. Si ça vous intéresse, c'est le dimanche 9 octobre.
Ah, c'est beau.
Vous appelez le 32-16, vous dites je suis intéressé, Nice 3, et vous allez au stade pour assister à cette rencontre. On est sur l'OM. Ce soir, Marseille est à Angers à 21h. Est-ce que les Marseillais ont l'effectif pour tenir les cadences infernales? Gabriel nous rejoint au 32-16 pour débattre avec vous, messieurs.
Salut Gabriel.
Salut tout le monde, vous allez bien? Salut.
Bienvenue, ouais, on est en pleine forme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gabriel?
Moi, je suis chauffeur de taxi, les gars.
Ah, d'accord. Bon, bah, tu nous écoutes tout le temps, alors.
Tous les jours, les gars, tous les jours. Ouais, je vous écoute tous les jours, le soir. Donc, je suis un habitué, on va dire.
Bon, lequel est ton préféré de l'émission?
Moi, j'aime bien Daniel, personnellement. Bon, c'est pas cette émission, c'est l'after, mais...
Ah ouais. Ah oui, bah, là, on part de loin, alors. Bon, on part de loin. Bon, bah, bonne soirée, Gabriel. Hein. Écoute, rappelle dans l'after. Non,
je fais ça. Bon, non, qu'est-ce que tu. En global, mais
il t'en reste de ton traitement
ouais. T'arrives à te soigner? Tu m'aimes bien, bah, c'est l'essentiel.
Ouais, je t'aime bien, sûrement. Même si je suis supporter de l'OM, je t'aime bien. Après, c'est vrai que t'avais un petit peu la grosse tête pendant un certain moment.
Ah
mais
bon,
j'ai vu que t'as un petit peu calmé ça, donc ça va.
Après la grosse tête, c'est normal, j'étais sur le toit de l'Europe, hein. J'étais un peu le Kylian Mbappé de l'époque.
Ouais.
Bon, Gabriel, blague à part, on parle de l'OM. Qu'est-ce que tu penses, toi, au niveau de l'effectif et surtout les échéances qui arrivent, ça se rapproche, là, il va y avoir une accumulation de matchs.
Bah, écoute, moi, ce que je pense, c'est que on va faire secteur par secteur. C'est-à-dire que je pense que devant, il y a quand même, pour les 11 prochains matchs là, en 40 jours, je pense qu'il y a quand même le matériel pour quand même faire une certaine rotation. Tu vois, il y a quand même Luis Suarez qui joue pas beaucoup, qui peut quand même faire plus que des bouts de match. Bamba Dieng qui est dans le groupe ce soir pour Angers, qui refait son retour dans l'effectif. Tu vois, il y a quand même pas mal de qualité et de quantité devant, je trouve. Ce qui va poser problème, par contre, c'est plus derrière, à mon avis, surtout les latéraux. Parce que à droite on a Jonathan Clauss, mais il y a que Issac Aboré qui peut faire entre guillemets le remplacement. Côté gauche, il y a Tavares, mais le problème c'est que Kolasinac en piston pur c'est très très compliqué. Kolasinac c'est plus axe gauche dans la défense à trois. Et après derrière dans l'axe entre guillemets, puisque c'est un axe à trois défenseurs, ça va être aussi compliqué parce que là on l'a vu que Bailly il est blessé. Balerdi, c'était catastrophique. Derrière, on est un peu juste.
Ouais, bah après, tous les joueurs que tu viens de me citer, c'est sûr que je vais te prendre par ordre. Hein. Le premier que tu as cité, c'est Luis Suarez. C'est sûr que Luis Suarez, aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation. Je sais pas s'il va être au niveau de l'Olympique de Marseille, d'une équipe qui joue le haut du tableau, qui joue la Ligue des Champions. Luis Suarez, son passé parle pas. Alors je sais pas, hein. Encore une fois, il faut faire confiance à Pablo Longoria qui l'a recruté. Il sent bien le foot en général. Est-ce que ce mec-là sera au niveau? Bah, c'est un point d'interrogation. Après, moi, ce qui me laisse perplexe, sur ce poste-là, tu viens de le dire, Bamba Dieng, il revient dans le groupe aujourd'hui. Et franchement, avant le coup, même si Dieng est un jeune joueur, mais il y a pas photo, du moins je sais pas. Je trouve que l'OM, il s'affaiblisse en cherchant à absolument à faire jouer certaines recrues. Mais Dieng, ouais. Dieng, il est là. Dieng, il doit,
non.
Il est.
Non, mais moi, il est meilleur que Suarez. Ouais, mais il est peut-être meilleur que Suarez. Mais le problème, c'est que tu te l'es affaibli toi-même. C'est-à-dire que ce joueur-là, ton propre Exactement. Entraîneur a dit, je n'en veux plus. Et il a été mis aux oubliettes. Et maintenant, il faut que le mec, ok, qu'il soit costaud. J'en doute pas qu'il va être costaud dans sa tête et tout ça. Mais comment tu peux te permettre de, tu sais que déjà, tu te plains que ton effectif n'est pas assez riche, et tu te permets d'avoir un mec comme ça et de le mettre aux oubliettes et de carrément lui mettre la tête sous l'eau.
Il avait quand même été assez prometteur la saison dernière.
Bien sûr.
Tu vois, le gars, c'est un jeune joueur, comme tu dis, Lionel, il a besoin de confiance. Et là, le peu de confiance qu'il a pu accumuler en quelques minutes, quelques bouts de match, etc.
Tu lui enlèves tout
ce qu'il pouvait. Tu lui enlèves. Alors là, il revient après tout ça, après avoir traversé le désert, etc. Est-ce qu'il va être performant? Donc, comme tu dis, Lionel, je suis 100% d'accord sur ça. Tudor, il a très très mal géré.
Après, il faut.
Sur Luis Suarez, excuse-moi, Jérôme. Luis Suarez, c'est pareil. Début de saison, si on se rappelle bien, il marque deux ou trois buts. le match d'après et il joue pas, tu vois. Donc en fait, on dirait que
Bon, après Luis Suarez, on a vu quand il a remplacé Alexis Sanchez.
Il en loupe une belle,
C'est quand même pas,
c'est pas en le faisant pas, sortir qui va le remettre en confiance.
Il faut aussi l'accepter. Et pour finir sur Dieng par exemple, Gabriel, là c'est aussi une preuve d'intelligence de la part de Tudor dans son management. Il y a eu des choix en début de saison, il faut les respecter. Il voulait s'en séparer, il voulait le faire partir, le mec n'est pas parti. Je pense que Dieng est resté professionnel parce qu'il a joué avec
la sélection,
il me semble. Donc,
qui est le plus intelligent, c'est Tudor ou
non, mais je pense que là, il faut analyser la chose, regarder, et si jamais il change son fusil d'épaule, il continue, et il refait jouer Dieng, c'est une preuve d'intelligence de la part de Tudor.
Dieng a du temps de jeu à Angers. Je vous rappelle le match 21h donc sur RMC, l'avant-match à partir de 20h dans After Live. Merci Gabriel d'être venu au
30. Salut Gabriel.
À bientôt. Et bravo d'avoir gardé la parole quand Jérôme a voulu te couper là, c'est incroyable. Allez, dans une seconde. C'est incroyable, ça s'appelle Roten sans flamme, mais tu te fais bouger quand même. Hein.
Non, mais il faut laisser la parole aux auditeurs.
C'est beau, bravo.
Oui, bien sûr.
Dans une seconde.
On parle de foot, c'est la passion, Jean-Louis.
Alors nous, on parle de foot, mais les footballeurs parlent aussi parfois de politique. Est-ce qu'ils ont raison ou non de le faire? On fait entrer les accusés dans une seconde. À tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.